Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jean-d'Arc, le 8 février 96.
Excusez-moi, arrivé un peu en retard. Comme le chauffeur n'était pas très habitué à la neige, ça n'allait pas très vite. Je me disais, ils attendent. Alors vous avez un quart d'heure de méditation, ce que les stoïciens demandaient toujours avant d'entrer en philosophie. pourrais jamais dire ça. Je ne pourrais pas, de moi-même, être conscient qu'il y a quelque chose qu'il faut dépasser, qu'il ne faut pas s'arrêter. Cet amour d'amitié, le considérer comme un absolu, et au nom de cette amitié, quitter la vérité. Et dire, c'est mon ami, je vais le suivre, ce qu'il me dit, c'est notre vérité affective, c'est notre vérité d'unité. L'amour fait l'unité. Et dans l'amour d'amitié, il y a l'idem velle entre les deux amis, le même vouloir. Si donc l'amour d'amitié est un absolu, je ne pourrais pas affirmer que la recherche de la vérité doit rectifier mon amour d'amitié. Nous avons déjà vu que rien ne peut mesurer l'amour. La parole de Saint Bernard, la mesure de l'amour, c'est l'amour. Donc, la parole de Saint Bernard va contre l'affirmation d'Aristote. Êtes-vous pour Saint Bernard ? Êtes-vous pour Aristote ? Platon et la vérité, je les aime tous deux, mais la vérité plus encore. Et donc, l'amour que j'ai pour Platon, je le mesure par quelque chose de plus fort et de plus grand. L'amour de la vérité. Je ne peux donc pas affirmer que le propre d'amour, c'est d'être sa propre mesure. Vous voyez bien, je crois qu'il faut mettre ça bien en lumière. Et c'est très intéressant. Saint Thomas cite les deux. Et Saint Thomas admire les deux. Et Saint Thomas aime les deux affirmations. Il les considère toutes les deux comme vraies. Et je crois qu'il a raison. Et je crois que nous devons aussi les considérer comme vraies. Dans l'expérience que j'ai de l'amour d'amitié, rien ne peut dépasser l'amour que l'amour. Justement, j'ai l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité exprime un amour plus fondamental que l'amour de la vie. Seul l'amour peut corriger l'amour. Et ça, c'est vrai. Seul l'amour peut corriger l'amour. Si seul l'amour peut corriger l'amour, l'amour d'amitié que j'ai pour Platon ne peut être corrigé que par un amour plus foncier, plus profond que l'amour de la vérité. Si l'amour de la vérité n'était pas un amour plus profond, il ne pourrait pas y avoir cette correction. Mais la vérité n'est pas une personne pour le philosophe. Pour le chrétien, la vérité est une personne, c'est le Christ. Mais pour le philosophe, la vérité n'est pas une personne. Alors, comment ça se fait? Et comment cela peut-il se faire que la l'amour de la vérité qui implique une certaine abstraction. J'ai jamais rencontré la vérité. Et vous non plus. Au plan philosophique, comment peut-on dire que l'amour de la vérité dépasse l'amour de l'ami? L'amour de l'ami, c'est une personne. Comment se fait-il qu'il peut y avoir ce dépassement? Puisque le réalisme de l'amour d'amitié semble l'emporter sur le réalisme de l'amour de la vérité, qui semble très beau au plan spirituel. Mais comme la vérité n'est pas une réalité existante en dehors de moi, c'est ce qui qualifie mon intelligence. Comment ce qui qualifie mon intelligence peut-il dépasser l'amour que j'ai pour une personne? Voyez, voilà l'objection. C'est une objection très forte que nous devons tous sentir. Parce que si nous ne la sentons pas, le jour où on sera en face de ce dilemme, on optera pour l'amour d'amitié de Platon. Et ensemble, nous irons dans le fossé. Ensemble, nous abandonnerons. On abandonnera cette exigence si radicale de l'amour de la vérité. Et c'est ce qui arrive constamment, hélas. On voit ça constamment, c'est une expérience humaine constante. Et c'est peut-être, voyez, la tentation, je peux dire tentation, la tentation philosophique, avec ce qu'on vit, notre vécu spirituel, qu'à certains moments on peut prendre avec une très grande force, une très grande acuité, ces deux aspects. Alors, essayons de comprendre que l'amour de la vérité, ce n'est pas l'amour de la vérité que je possède, c'est l'amour de la recherche d'aller toujours plus loin dans cette vérité. Si je vois que l'ami, à un certain moment, dit quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas conforme à la réalité, je dois corriger mon ami. Je ne l'abandonne pas, mais je le corrige. En réalité, voyez, en réalité, c'est ce que dit l'ami dans tel ou tel domaine que je juge comme n'étant pas vrai, n'étant pas conforme à la réalité. C'est cela que je corrige. Ce n'est pas l'ami comme ami. L'ami comme ami, la personne demeure un certain absolu que j'aime. Il faut aimer beaucoup l'ami. Et il faut l'aimer dans ma recherche de la vérité. Il faut l'entraîner dans ma recherche de la vérité pour pouvoir corriger mon ami et lui dire je t'aime, mais la vérité je t'aime encore plus que ce que tu dis. Et donc je ne peux pas accepter cette erreur. Accepter cette erreur diminuerait mon amour d'amitié. Et ferait que mon amour d'amitié laisse entraîner à son erreur. Ce n'est pas véritablement l'aimer. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre. Parce qu'autrement, on ruine l'amour d'amitié. Ou on ruine la recherche de la vérité. Et c'est pour ça que cet exemple est très très fort. Parce que il nous fait comprendre que c'est vrai, l'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. C'est très vrai. Et c'est pour cela, du reste, que je puis corriger mon ami sur tel point. J'ai un ami qui est hégélien. Puis-je aimer un amour qui est hégélien quand je dis que la philosophie hégélienne est fausse? Il y a deux attitudes. Il y a une attitude intransigeante. Dis, mon cher ami, tant que tu seras hégélien, je ne peux pas t'aimer. Tant que tu seras platonicien, je ne peux pas t'aimer. Alors, à ce moment-là, aimer ses ennemis devient quelque chose, au plein du chrétien, devient quelque chose qui s'oppose à ma recherche de la vérité. Et je dirais, le christianisme, au fond, me fait comprendre que l'amour du prochain va plus loin que la recherche de l'amitié, que la recherche de la vérité. Et alors, à ce moment-là, c'est intérieurement, si je suis chrétien et philosophe, que je dis, le christianisme m'empêche d'être philosophe. Et c'est ce qui arrive très très souvent. Alors, on ne comprend plus. Là, on touche un code conscience que dans la vie chrétienne, on touche à tous si on veut être fidèle à la vérité et si on veut être fidèle à la charité. Et c'est très délicat à résoudre. C'est relativement facile pour un autre et c'est très difficile pour soi. Pour un autre, on verra très clair, oh c'est très clair. Tu n'as qu'à te corriger, quoi. Oui, mais c'est pas si commode que ça de se corriger. Et demander à l'ami qui s'est enfoncé dans le point de vue de Hegel, qui toute sa vie dans la philosophie hégélienne, qu'il a fait sienne cette recherche hégélienne, alors est-ce que je peux le corriger? Je peux sûrement pas le corriger en quelques minutes, ou en une année, ou en 3-4 conversations. Les plis de l'intelligence, c'est quelque chose de très radical et très foncier. Alors, je dois revenir à une analyse beaucoup plus profonde de cette affirmation d'Aristote et cette affirmation de Saint Bernard pour voir qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Qu'il y a dans l'amour d'amitié, l'amour de la personne, qui est un certain absolu. C'est la personne que j'aime. L'erreur de cette personne ne touche pas ce qu'il y a de plus radical en elle. Son amour de la vérité. ce qu'il y a d'essentiel dans sa recherche de la vérité. Ça peut être extrêmement fort en lui, puisque depuis 20 ans, depuis 30 ans, il suit cette voie. Et donc, ça fait partie de son pain quotidien, ça fait partie de sa nourriture quotidienne intellectuellement. Et regarde toutes les autres choses dans cette lumière. Savoir ça, et je le sais, je suis suffisamment lucide pour le savoir, que l'emprise hégélienne, que l'emprise du néoplatonisme est une emprise qui va très loin et qui touche les premiers plis d'une intelligence qui cherche la vérité. Vous voyez, quand ça touche des conclusions secondaires, c'est second. Mais quand ça touche l'option très radicale de l'intelligence dans sa recherche de la vérité, ça touche l'appétit naturel de l'intelligence. Tu vois, ça l'encombre et ça peut la faire dévier. Mais la nature de l'intelligence, l'appétit naturel de l'intelligence à l'égard de la vérité est quelque chose de plus radical et de plus foncier que n'importe quelle erreur. Et c'est ça qui sauve tout. C'est la personne que j'aime. Si c'est la personne que j'aime, je peux aimer mon ennemi. Parce que la personne de mon ennemi n'est pas entièrement prise, saisie adéquatement par son erreur, par cette déviation. Le mal de cette erreur, le mal de son choix vis-à-vis de telle ou telle chose qu'il me fait mon ennemi, n'est pas aussi radical que son appétit de vérité, que son de vérité. Et c'est pour ça que je peux continuer à l'aimer. Mais je suis obligé de montrer que dans mon amour d'amitié vis-à-vis de cet ami, il y a un poids extrinsèque à mon amour d'amitié. Et que pour pouvoir continuer à l'aimer, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut découvrir vraiment sa personne dans ce qu'elle a de plus radical et de plus profond. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, parce que ça nous fait vraiment comprendre que l'amour d'amitié touche la personne humaine, et non pas telle ou telle qualité. Et non pas les conclusions qu'il peut connaître, qui peuvent être pour lui quelque chose qui apparaît comme absolument essentiel. C'est son vécu. Le vécu n'est pas adéquat à l'appétit naturel de vérité. C'est pour ça que si je suis dans une philosophie féminologique qui regarde le vécu, alors je peux très bien être en opposition. Mon amitié est la recherche de la vérité. Je peux très bien être en opposition.
Je puis faire à mon ami.
qu'il est incapable de comprendre cette correction. C'est possible. Étant donné le conditionnement si fort dans lequel il s'est engagé. Mais peu importe, au-delà de son conditionnement, il y a la personne. Et c'est cette personne que j'aime, dans ce cas-là, de plus profond, de plus rapide. Mais la vérité plus encore, c'est-à-dire que dans Platon, étant donné qu'il y a des erreurs que je ne peux pas accepter, je corrige mon amitié pour Platon. Mais cela me permet de l'aimer plus profondément, c'est-à-dire de distinguer en lui sa propre personne, dans ce qu'elle a de plus profond, et de réveiller dans cette personne son amour de la vérité, au-delà des certaines affirmations qu'il peut faire. Et qui ne sont pas vrais. Vous voyez, autrement, je serais obligé de dire que l'amour d'amitié que j'ai pour telle personne est mesuré par les connaissances qu'il a, par la vérité qui le possède. Et je l'aime, non pas en lui-même, mais dans son activité intellectuelle. Or, je peux l'aimer plus profondément que ses activités intellectuelles. Mais ce que j'aime en lui, c'est son amour de la vérité. Si il n'aimait pas la vérité, je ne pourrais pas l'aimer aussi profondément. Je dirais, je l'aime parce qu'il y a des capacités en lui merveilleuses qui ne se sont pas développées. Et je l'aime pour essayer de réveiller en lui ses capacités intellectuelles. Alors là, c'est possible. On peut aimer quelqu'un qui est handicapé. Et un handicap qui va jusqu'à l'intelligence. Un handicap qui provient, qu'il a été élevé dès sa jeunesse dans tel climat. Et je peux l'aimer vraiment. Je sais, je suis lucide. Je sais que je pourrais l'aimer beaucoup plus. Il y aurait tout un rayonnement de mon amour d'amitié sur lui s'il n'y avait pas cet handicap. C'est pour ça, quand on peut aimer une personne avec qui, de fait, la recherche de la vérité est commune, l'amour d'amitié va beaucoup plus loin. Il y a tout un rayonnement de l'amour d'amitié. Chaque fois que mon ami se trompe, qu'il n'a pas suffisamment de charité, si on est chrétien, ce manque d'amour arrête l'amour d'amitié, est un obstacle. Je suis lucide et je dois rester lucide. L'amour d'amitié ne supprime pas la lucidité, au contraire, l'augmente. Et je dois aimer mon ami d'une manière telle que cette lucidité me permet de continuer de l'aimer, bien que politique. Certaines vérités chrétiennes, on n'est pas tout à fait d'accord. On le sait. Vous voyez, c'est très très important cela, de comprendre que l'amour d'amitié touche la personne. Et donc elle a un absolu. Tant qu'elle n'a pas atteint la personne, elle reste relative à la croissance de cette personne dans le développement de son intelligence et dans le développement de son cœur. Et donc, ce n'est pas vraiment l'amour d'amitié. C'est une sorte de disposition vers l'amour d'amitié. Je l'aime dans sa recherche philosophique. Je l'aime dans sa charité débordante pour les autres. Je l'aime à cause de telle ou telle qualité sur les dispositions. Ce n'est pas l'amour d'amitié. L'amour d'amitié me fait toucher vraiment l'autre dans ce qu'il a de plus lui-même. Et alors, à ce moment-là, seulement, il y a un certain absolu qui fait que rien ne peut enlever cet amour d'amitié. Toutes les critiques que je peux entendre, toutes les manques d'amour des autres, ça ne me touche pas. Parce que je vois que les autres l'aiment en fonction de ses qualités et non pas pour lui-même. Je dirais très bien, au fond, ils ne l'aiment pas vraiment. Ils n'ont pas découvert sa personne. Alors, à ce moment-là, cet amour d'amitié est absolu, en ce sens que rien d'humain, de critique, d'opposition ne peut le diminuer. Il est au-delà de toutes ces attaques. Il a en lui quelque chose d'invincible. On ne peut pas l'attaquer. Parce que j'ai touché sa personne. Si je me place dans un jugement de sagesse, je dirais, c'est pas étonnant. Ayant touché sa personne, je touche le regard du Créateur sur lui. Dieu crée des personnes. Et l'amour du Créateur touche la personne. Et non pas la croissance. Le devenir, le conditionnement, il le dépasse. Et c'est la personne que le Créateur aime. Et donc il y a une rencontre là qui est au-delà de tout l'aspect apparence extérieure, qui est la rencontre propre de l'amour d'amitié. Alors ce regard de sagesse, je ne peux pas l'avoir tout de suite. Je ne l'ai que quand j'ai découvert l'existence d'un Dieu créateur. Et à ce moment-là, cela vient confirmer qu'il y a dans l'amour d'amitié véritablement un absolu. Quelque chose que rien ne peut supprimer. Et ça enlève tout cet aspect, vous voyez, de fébrilité, d'inquiétude. Ah, mon ami entendra telle chose, un autre qu'il aime beaucoup sur moi. Il y a eu cette dispute, il y a eu ces engagements difficiles. Ça va diminuer notre amour d'amitié. Non. Cela ne peut pas diminuer l'amour d'amitié. Ça fera de la peine. On verra, c'est dommage que l'autre ne voit que ses limites, que quelque chose qu'il n'a pas encore entièrement dominé, et qu'il s'est arrêté devant des aspects très extérieurs, son irascible, son concupiscible. Il aime beaucoup la confiture. J'avais pas encore remarqué ça, mais de temps en temps ça déborde un peu. Donc il y a une petite bavure vis-à-vis de cette personne. C'est pas à cause de ça que j'aime quelqu'un. On aime la même confiture. Ouais, c'est très bien. Notre amour d'amitié reste au niveau d'Inette. Ça ne dépasse pas. C'est l'amour d'amitié des gourmets, ça. Alors, il se trouve au restaurant toutes les semaines, ou même ensemble. Ils aiment bien de partager un repas ensemble. On est des amis, oui. On est des amis pour cela. Et non, cet amour-là, ça n'a rien à voir avec l'amour d'amitié. C'est la dinette. Ça ne touche absolument pas la personne. Des vieux garçons qui sont mariés, chez des vieux garçons mariés, ou chez des religieux vieux garçons, il peut y avoir ça. Alors à la place de la confiture, c'est, je ne sais pas, une discussion sur les textes d'Aristote. On va discuter pour ça. Oh, c'est intéressant de discuter là-dessus, vous voyez. C'est un amour d'amitié sur une spécialisation. On est spécialiste du livre Zeta. Et sur là-dessus, on se discute. Très bien. C'est un amour d'amitié sur ce domaine-là. C'est un peu plus de noblesse que la confiture. Et puis ça dure plus longtemps. C'est l'avantage aussi. Parce que se heurter longtemps sur ces textes et essayer de les amenuiser. Mais c'est très bien. Ça reste comparativement au véritable amour d'amitié qui touche la personne de la dinette. C'est pas plus que ça. Ce n'est pas la rencontre profonde, amicale, sur la recherche de la vérité. Parce que je crois que s'il n'y a pas cette recherche de la vérité chez deux amis, l'un aristotélicien, l'autre néoplatonicien, s'il n'y a pas cet amour de la vérité chez les deux, très vite, l'aristotélisme et le platonisme, à la place de les unir dans une recherche de vérité, va au contraire les opposer. C'est très curieux, ça. Mais c'est constant. Il faut essayer de saisir jusqu'où va la cognonia dans l'amour d'amitié. La cognonia, c'est la communion. Mais c'est plus que la communion. C'est tout ce que je suis capable de transmettre à mon ami et qu'il le reçoit et l'assimile et envie. Alors il y a cette cognonia entre amis. Alors quelquefois cette cognonia se résume tout simplement à cette rencontre toutes les semaines dans ce petit restaurant où on prend son pain ensemble. Ouh, des discussions sur le livre Zeta, des métaphysiques. Là on peut vraiment parce que on aime l'intelligence de l'autre, non pas à cause de ses conclusions, mais à cause de sa recherche de vérité. Parce que c'est ça qui est le plus vrai dans mon intelligence. Mes conclusions, je peux toujours les reprendre. La recherche des principes et la découverte des principes, c'est différent. Mais je peux toujours approfondir. Et quand j'approfondis, j'exprime alors mieux ce qui me semble être la vérité. Et très souvent, les querelles sont au niveau des expressions. Donc ce sont de fausses querelles. Parce qu'on ne se discute, on ne fait pas de philosophie tant qu'on est au niveau de l'expression. On fait de la philosophie quand on touche la vérité. Et donc, profondément, s'il n'y a pas de recherche de vérité chez quelqu'un qui est mon ami, ça ne durera pas. Si moi je cherche la vérité, si je ne cherche pas la vérité, et que mon ami ne cherche pas la vérité, cet amour d'amitié, très vite, deviendra l'amitié de vieille fille ou de vieux garçon. On s'aimera parce qu'on a les mêmes goûts. On s'aimera les mêmes goûts dans tous les sens. Hein. Sur des qualités et pas sur la personne. Parce que tant qu'une personne humaine n'a pas cet amour de la vérité, la structure de sa personne ne s'actue pas. Et donc, je reste auprès d'elle dans un aspect extérieur. Il n'est pas bête, je dirais. Il est intelligent. Mais malheureusement, il a ses dadas. Il reste toujours fixé sur une chose. C'est pas l'amour de la vérité qu'il a. Il aime plus ce qu'il a découvert que l'amour de la vérité. Il aime plus tel ou tel aspect de sa vie religieuse que la contemplation. Il a ses dévotions, les oraisons de Sainte Brigitte, c'est sa dévotion. Et tant qu'il ne les a pas récitées, il est de mauvaise humeur. Il y a quelque chose, alors, très bien, je le sais, je réciterai avec lui, par amour pour lui. Mais je dirais, mais c'est peut-être un peu trop long, parce que mon amour porte sur autre chose, mais c'est là où on touche, voyez, que s'il n'y a pas une recherche de la vérité dans tous les domaines, même le domaine de la dévotion, mon amour d'amitié ne peut pas être parfait. Je concéderai, je ferai des concessions, mais on ne peut pas faire tout le temps des concessions quand on s'aime. Tandis que quand il y a l'amour de la vérité, on peut y aller à fond. Et alors à ce moment-là, l'amitié grandit et on touche cet appétit naturel de la recherche de la vérité chez l'ami. Voyez, ceci fait comprendre au plan philosophique combien l'amour d'amitié implique le concours d'une intelligence rectifiée et d'une capacité d'aimer au point de vue volontaire, au point de vue du cœur. Que l'amour spirituel ne peut atteindre la personne de l'autre que si cet amour accepte cette grande purification de la recherche de la vérité. deux aspects. À ce moment-là, l'intelligence et la volonté peuvent coopérer. Et je peux aller toujours plus loin dans cet amour d'amitié. Et par là, je découvre quelque chose qui va très loin dans ce lien personnel avec l'ami. Et que vraiment, je l'aime. Alors à ce moment-là, je comprends la parole de l'Ecclésiaste. Son ami est une forteresse. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Si on les aime profondément, parce que chacun est un absolu. Tandis qu'au contraire, si l'amour d'amitié reste au niveau camaraderie, à ce moment-là, cet amour d'amitié n'est pas une finalité humaine. C'est une possibilité de vie commune. Mais la vie commune n'est pas une finalité. La vie commune est un exercice. C'est l'amour d'amitié au plan humain qui dépasse de beaucoup ce que représente la vie commune. La vie commune, elle est finalisée par quoi? Elle est finalisée par le bien commun. L'amour d'amitié est finalisé par quoi? Par l'autre, l'ami, sa personne. Et la personne de l'ami n'est pas le bien commun. Puisque c'est mon bien. C'est pas le bien de tous. C'est mon bien. C'est mon ami. Vous voyez, si je saisis bien cela, je vois avec netteté que opposer intelligence et capacité d'aimer, c'est monstrueux. L'intelligence dans sa recherche de la vérité est au service de l'amour d'amitié. Et elle accepte d'être dépassée par l'amour d'amitié. Mais elle sait que l'ami, au point de vue humain, n'est pas la vérité. N'est pas ma vérité. Et donc l'intelligence se met au service de l'amour d'amitié en dépassant cet amour d'amitié, en gardant toute sa, j'allais dire, toute son originalité naturelle, toute sa force naturelle de recherche de la vérité. Parce que le jour où votre intelligence considère que ce qu'il y a de plus grand en elle, c'est d'être au service de l'amour d'amitié d'un homme, d'une femme, c'est fini de votre recherche de la vérité. Vous vous engluez dans un amour d'amitié. Et vous n'êtes plus libre. La recherche de la vérité demande une liberté intérieure qui doit aller très loin. C'est là où la parole d'Aristote vient montrer cette liberté. Aristote reste libre dans la recherche de la vérité, bien qu'il aime Platon. et l'amour qu'il a pour Platon ne l'handicape pas dans sa recherche de la vérité. Si son intelligence dans sa recherche de la vérité était finalisée par l'amour d'amitié, il ne pourrait plus avoir cette liberté. Il faut donc comprendre que l'intelligence est bien au service de l'amour d'amitié, mais elle est au service de l'amour d'amitié parce que sa finalité, c'est la vérité. Et donc la recherche de la vérité peut assumer ce service, qui est un service très noble, très grand, dans l'ordre pratique. C'est le plus grand des services que l'intelligence peut faire. C'est le plus grand des services. Il y aura, au point de vue humain, un service plus grand, mais ce sera en regardant la personne religieuse. Et ce sera d'être au service de l'adoration. Ce sera un service plus grand. On pourra creuser ça, parce que c'est important. Mais ce n'est pas directement ce que nous voyons, voyez, puisque nous essayons de comprendre la personne humaine dans ce qu'elle a de premier. La personne humaine se développe dès que mon intelligence découvre l'existence du Créateur. Alors il y a une nouvelle dimension de la personne humaine. C'est la personne humaine au niveau religieux. Et au niveau religieux, il y a un nouveau service plus éminent encore que de ces...